sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Vaïté Ourari Pambrin.
Allez, c'est parti, le journal Vaïté, bonjour.
Yora Moreto, yora à tous. Dans notre édition de ce matin, nous parlerons politique avec le cumul des mandats qui sera restreint dès l'année prochaine. Et donc le sénateur et vice-président du pays, Niuha Oulouré, devra faire un choix. Nous aborderons aussi le fait divers de Taravao qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Et enfin, nous terminerons notre journal par la culture avec un spectacle qui se jouera à la Maison de la Culture le 15 janvier prochain.
Alors, sénateur ou VP, Niuha Oulouré va devoir choisir.
La loi sur le non-cumul des mandats, qui doit entrer en vigueur l'an prochain, agite le débat politique dans l'Hexagone. Son application au Fénois n'aura qu'une seule conséquence. Niuha Oulouré devra choisir entre le poste de vice-président du pays et celui de sénateur. En France, 3 élections sont programmées en 2017. La présidentielle, les législatives, puis les sénatoriales partielles. La loi sur le non-cumul des mandats, votée en 2014, entrera en vigueur en même temps que les 2 dernières élections pour l'ensemble des députés et sénateurs de la République. Sauf que les parlementaires du Fénois ne pourront plus exercer simultanément leurs fonctions de parlementaires et en même temps être chef ou adjoint d'un exécutif local. Les députés et sénateurs polynésiens ne pourront donc plus être maire ou maire adjoint, président ou vice-président du pays et président ou vice-président de l'Assemblée de la Polynésie. En revanche, les parlementaires pourront parfaitement être conseillers municipaux représentant à l'Assemblée. Les explications de Marc Tigfray, secrétaire général du Haut-Commissaire.
Ça veut dire que maintenant, il y aura une incompatibilité entre les mandats de parlementaires et les mandats de président du pays, vice-président du pays, ou président de l'Assemblée de Polynésie française, ou vice-président de l'Assemblée de Polynésie française. Voilà ce qui va s'appliquer à partir donc du renouvellement des assemblées du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Alors, si certains des élus ne voudraient pas, en tout cas, démissionner de l'un de leurs postes, comment est-ce que ça se ferait?
Alors, au départ, on leur donne un délai de réflexion, bien sûr, qui est un délai de 30 jours pour pouvoir choisir entre ces 2 mandats ou fonctions exécutives. La loi prévoit bien sûr le cas où il y aurait en fait l'absence d'indication de la part de l'élu. Et dans ce cas particulier, il perdrait son mandat le plus ancien. Donc il garderait en fait le mandat ou la fonction qu'il vient d'acquérir. Pour l'instant, il y a les règles classiques d'incompatibilité si vous avez plus de 2 mandats. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de difficulté. C'est simplement au moment du renouvellement des assemblées après le 31 mars 2017 que effectivement cette question va se poser.
Et donc il n'y aura pas d'amende?
Non, il n'y a pas d'amende. En fait, c'est une perte de plein droit, en fait, du mandat ou de la fonction exécutive.
Sachez que la France est considérée comme le mauvais élève de l'Europe pour le cumul des mandats. Ainsi, 82% des députés et 77% des sénateurs exercent au moins un autre mandat électif contre seulement 16 pour leurs collègues italiens et 10 chez les parlementaires allemands.
La victime de Taravao avait reçu 11 coups de couteau avant de décéder.
Brûlé à 90%, le meurtrier de Taravao qui a fait la une des journaux de la place depuis dimanche est décédé hier matin à l'hôpital de Taone. L'homme âgé de 34 ans aura passé donc 2 jours en soins intensifs et de facto, sa mort entraîne la clôture du dossier pénal. Le vice-procureur en charge de l'enquête, Michel Bonnieux, a tout de même demandé une autopsie du défunt pour, selon ses propos, fermer toutes les portes. D'autre part, l'autopsie de sa concubine a permis de déterminer qu'au total 11 coups de couteaux ont été donnés avant qu'elle ne décède dimanche midi au domicile conjugal de la Presqu'île. De quoi accréditer la thèse de l'utilisation d'un couteau de cuisine, même si l'arme n'a toujours pas été retrouvée dans les décombres calcinés de la maison. Le scénario d'un mari jaloux décidant de tuer sa compagne avant de mettre fin à ses jours en s'immolant semble le plus probable.
Et puis le président du COP, Tawhid Ilena, s'est défendu ce matin des accusations portées le mois dernier par Abel Temarii.
Entouré de 13 présidents ou candidats de fédération, Tawhid Ilena a présenté hier à la mairie de Papeete son programme 2016-2020. L'occasion pour l'ancien boxeur de revenir sur les propos tenus par Abel Temarii lors de la présentation de son programme. Ce dernier lui reprochait les relations tendues entretenues avec le comité olympique français, ce que dément Tawhid Ilena. Ses propos ont été recueillis par Valentine Bluet.
C'était que des mensonges. Il faut juste savoir que ça va faire 8 ans que j'ai eu l'occasion de rencontrer Denis Masseglia chaque année. Donc je suis arrivé il y a 3 ans, arrivé à le convaincre qu'il nous soutienne pour qu'on puisse s'affilier au CIO. Aujourd'hui, toutes nos fédérations sont affiliées aux fédérations internationales. On a pu mettre en place des conventions avec les fédérations françaises, tout en étant fédération internationale. Concernant le comité international olympique national sportif et français, ils sont candidats pour les Jeux olympiques en 2024. Et ils savent aujourd'hui que Tahiti est très influent au niveau de notre région pour récupérer des voix. Et donc, ils sont conscients aujourd'hui de l'importance pour que Tahiti s'affilie au CIO. Donc c'est encore un autre pays francophone, mais surtout d'avoir un partenaire. Aujourd'hui, les liens que nous avons avec le CNOSF, c'est en tant que partenaire.
L'actuel président du COPF, Tahiti Nena, considère que le sport pourrait sortir le pays de la situation économique déplorable dans laquelle il se trouve.
C'est vrai que le pays rencontre des difficultés. Au niveau du budget de fonctionnement, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, on avait pratiquement 700-800 millions. Aujourd'hui, on a 300 millions pour le sport. Sur les 300 millions, il y a 150 millions de l'État. Ensuite, sur ce qui reste, il y a bien sûr des crédits fléchés pour l'assurance, pour les grandes manifs. Ensuite, le ministre actuellement a une petite marge de manœuvre. Mais bon, il faudrait qu'ils prennent conscience de l'importance du sport. En ce qui concerne notre équipe, nous sommes convaincus pour développer ce pays, qui est aujourd'hui un pays, on peut dire, malade. C'est quand même 100 milliards de dépenses de santé par an. Il faudrait juste qu'on donne un peu plus de moyens au sport pour qu'on soit capable de mieux éduquer nos jeunes à la pratique d'une activité physique et sportive, à également une meilleure alimentation, et cela résoudra rapidement beaucoup de problèmes au niveau de la santé, au niveau financier également. Ça permettrait au pays d'investir ailleurs.
Les objectifs de Tahiti Nena se résument dans l'intitulé de son programme pour un sport polynésien majeur et responsable. En marge des Jeux d'Asie Indoor et les mini-jeux l'an prochain, puis les Jeux du Pacifique en 2019, l'ancien boxeur travaille d'ores et déjà sur la candidature du pays pour l'organisation des Jeux du Pacifique en 2023.
Au niveau du pays, nous préparons la candidature de 2023. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la ministre des Sports qui soutient la candidature de Tahiti pour l'organisation des Jeux de 2023 et du pays également, et même de l'État. Le ministère des Sports de France soutient notre candidature pour 2023, car c'est quand même important. C'est quand même un budget de 7 milliards, ce qui nous permettrait de rénover toutes les installations sportives des clubs bâtisseurs, des communes, également de créer de nouvelles installations sportives, que ce soit au niveau d'une piscine olympique, que ce soit au niveau d'un palais des sports. Et nous avons l'engagement du pays pour l'organisation de ces Jeux de 2023.
Et on parle perles maintenant, dont le marché se porte bien.
Deuxième ressource du Fénois après le tourisme et avant la pêche, la perliculture poursuit son embellie entamée en 2013. Les chiffres publiés par l'ISPF en 2014 montrent une augmentation des exportations, plus de 12% en recettes et du nombre des fermes perlières au nombre de 561, soit une augmentation de 8,8% sur l'ensemble du territoire. Les recettes à l'exportation des produits perliers augmentent pour la deuxième année consécutive avec une hausse de l'ordre de 12%. Après une période de déclin entre 2007 et 2012, c'est une bonne nouvelle pour l'économie du Fénois, une économie qui aura rapporté en 2014 au pays 8 800 millions de francs en exportation, soit l'équivalent de 1000 francs le gramme. Les deux principaux acheteurs sont Hong Kong et le Japon, qui à eux seuls s'octroient 95% de la production des perles noires.
Et puis les étudiants Maori et Maori seront réunis prochainement sur scène au Fénois.
Erua Yahere, c'est la comédie musicale que co-signent les étudiants de l'UPF et ceux de l'université de Waikato à Hamilton en Nouvelle-Zélande. Plus d'un an de travail et de répétition pour finaliser le spectacle qu'ils présenteront le 15 janvier prochain à la Maison de la Culture. Une comédie musicale interprétée en Reo Tahiti et en Reo Maori. Tawahere Maono, chef de projet, nous en dit plus.
Nous avons travaillé sur une histoire d'amour entre une jeune princesse tahitienne et un jeune prince maori qui malheureusement ne pourront pas s'aimer puisque la jeune fille, comme c'est prévu par les coutumes anciennes, a déjà été fiancée. Hein, on appelle ça le momoara. Ça va être un petit peu compliqué pour le prince maori de prendre la jeune princesse tahitienne pour épouse.
Mais au-delà de cette histoire d'amour à l'ancienne, les 24 étudiants de l'UPF en concert avec les 18 Maoris de l'université de Waikato ont écrit les textes, imaginé les chorégraphies et composé la musique, bien qu'ils ne soient pas tous bilingues. Particularité, les répétitions et ajustements du spectacle se font actuellement par Internet via les réseaux sociaux compte tenu de la distance qui sépare ces étudiants.
On a veillé quand même à ce que la langue ne soit pas une barrière à la compréhension du spectacle, puisque nous travaillons sur plusieurs tableaux. Et donc pour ceux qui viendront au spectacle, donc le 15 janvier, ce sera pas un problème.
La comédie musicale ne sera présentée qu'une seule fois au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Ce sera le 15 janvier. Et à l'issue de cette représentation, les étudiants maoris profiteront de leur présence au Finnois pour aller à la rencontre de leurs ancêtres. Au mois de février, ce sera au tour de nos étudiants de se rendre en Nouvelle-Zélande pour 4 représentations, dont une au Grand Théâtre de Hamilton et une autre à Wellington.